Cacao Cast, épisode 277. Nous sommes le mardi 16 avril 2024. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ?
Ah, ça va, je suis ébloui, Philippe.
Tu es ébloui, que oui. S'est-il passé?
Eh bien, en Amérique du Nord, pas trop loin de chez nous, il y avait, il y a une semaine, une éclipse solaire totale. Et c'était un événement que je ne voulais pas manquer, et je me suis déplacé un petit peu parce qu'on n'était pas directement dans le chemin de l'éclipse. Alors, on a sûrement des auditeurs dans la région de Montréal qui, eux, ont eu droit à l'éclipse sans avoir à vraiment se déplacer. En fait, l'île de Montréal était coupée en deux par la zone de totalité, c'est un peu bizarre. Et tout dans ce qu'on a, la partie est du Québec, ce qu'on appelle les cantons de l'Est en direction de Sherbrooke, a été dans la zone de totalité au complet. Mais se rendre à Sherbrooke à partir d'ici, c'est 4 heures de route. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 heures de route directement au sud. Je me suis rendu aux États-Unis, j'ai traversé la frontière et j'ai pu me retrouver au milieu de la zone de totalité. Et c'était très bien. J'ai eu droit à 3 minutes 38 de totalité, ce qui était vraiment exceptionnel. Et on a été super chanceux pour la couverture nuageuse. On avait juste des petits nuages un peu comme vaporeux en altitude là, qui faisaient en sorte qu'on voyait très très bien le soleil et l'éclipse à travers le petit peu de nuages. Toutes les différentes phases de l'éclipse, on a très bien pu voir. Et dès que la totalité s'est passée, des plus gros nuages sont arrivés directement de Niagara Falls et ont tout bloqué. Alors, on n'a pas vu la deuxième partie de l'éclipse, mais on avait déjà vu tout le crescendo avec la lune qui cache le soleil pendant, ça prend environ 1 heure. Là. On a eu droit à tout ça et c'était vraiment magique. Si vous avez l'occasion de voir une éclipse totale, ça vaut le déplacement.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis pas allé si loin. Je suis allé proche de la
du fleuve Saint-Laurent, oui.
Du fleuve Saint-Laurent, donc.
T'étais à la limite de la zone de totalité. Ouais.
Ouais, donc on parle de 2 minutes et quelques de totalité. Donc voilà, j'ai pas eu la minute supplémentaire comme toi, mais bon, je pense que ça suffisait quand même. C'était bien impressionnant, ouais. Plus impressionnant que je me l'imaginais. Surtout qu'au début. C'est un petit peu bizarre, hein. On pense que c'est déjà l'éclipse totale, mais c'est pas encore l'éclipse totale, hein. Ouais. On voit que la lune couvre le soleil, on voit encore cette petite bordure un petit peu orangée là, puis hop, elle disparaît. Et puis, bon, c'est tout noir, on voit plus rien, tout noir, je veux dire, on voit plus le soleil, mais c'est pas encore l'éclipse totale. Il fait légèrement plus sombre, mais à peine. Ouais. Et puis d'un coup, paf, on dirait que ça vient d'un coup. Ouais. Où on voit la couronne qui apparaît tout autour blanche. Elle apparaît blanche, elle apparaît plus orangée comme au début. Et là, il fait sombre d'un coup et la température chute d'un coup. J'imagine que tu as ressenti ça. Ça fait vraiment drôle.
Ça et les lumières de l'éclairage nocturne s'allument autour de toi, là.
Ouais, donc ça c'est vraiment étrange et c'est vraiment la partie spectaculaire. Donc l'une de voir cette couronne lumineuse dans le ciel, c'est impressionnant. Ouais. Mais surtout qu'ils se mettent à faire quasiment nuit comme ça d'un coup, c'était incroyable. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été moins loin, mais on a essayé de s'approcher d'une forêt. Ce qu'on s'est dit, on veut voir ce que ça donne sur la faune, on va dire, environnante quand ça se passe. Eh ben, on n'a pas été déçus non plus parce que bon, on n'était pas dans la forêt, on était au bord d'un petit bois là, pas si grand, mais bon, qui n'était pas trop bruyant. On entendait quelques oiseaux par-ci par-là, puis sans plus. Et puis quand l'éclipse est arrivée, qui s'est mis à faire noir, on a entendu les grenouilles se sont mises à chanter. Quasiment immédiatement, c'était à quelques secondes près. Et aussi des oiseaux qu'on n'entendait pas avant. Je me demande si c'est pas des espèces plutôt nocturnes commençaient à chanter, etc. Et une fois les 2 minutes et demie passées, on n'entend plus les grenouilles, elles s'arrêtent instantanément. Et pareil, on n'entend plus ces oiseaux-là qu'on n'entendait pas avant. C'était assez rigolo. Mm. On a pu enregistrer un petit peu ça sur nos iPhones et c'était assez marrant à constater, de voir que la nature... on se dit, OK, il fait nuit. Ouais. C'est moi, pas trop posé
moi, de questions. Je me suis demandé si je devais aller à celle de 2017 qui a traversé les États-Unis d'ouest en est. Elle est partie environ de la Californie jusqu'à la Floride. Et pour ça, il aurait fallu faire peut-être 1500 km de route. Là. Et il y a des gens qui ont fait ce genre de route-là, de 1000-1500 km de route pour aller dans l'éclipse de 2024. Je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait en 2017, mais bon, ce qui est passé est passé. Et puis là, celle de 2024, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Et là, je me demande si je vais réussir à voir les prochaines, parce qu'évidemment, là, maintenant, on commence à regarder les calendriers des éclipses, et puis il y en a une, si je ne me trompe pas, en 2026, qui va se terminer en Espagne. Alors, il y a toute la partie nord de l'Espagne va être dans la zone de totalité. Mais sinon, c'est un petit bout de l'Islande aussi, puis tout le reste au-dessus de l'océan Atlantique Nord, alors c'est pas super passionnant, là, mais ça, c'est les prochaines. Puis ensuite, il y en a deux grosses en 2028-2030 qui vont traverser le continent africain. Celle de 2028, c'est l'éclipse du siècle, qu'ils disent, parce que il va avoir plus de 6 minutes de totalité au-dessus des pyramides d'Égypte, à Luxor. Alors ça, ça va être... Moi, où je suis allé, il y avait quand même... On n'était pas ultra nombreux, mais disons, je dirais qu'il y avait peut-être 200 personnes là où on était. Là. Et quand la totalité est arrivée, c'était pas les animaux qu'on entendait, c'était la clameur des gens qui hurlaient, là, de joie, beaucoup. Là. Ouais. C'était différent de ce que tu as vécu, là, mais c'était quand même une expérience à partager. J'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça va être en 2028 en Égypte.
Alors, c'est marrant, parce que je regarde un petit peu le calendrier des éclipses. Ça montre une petite carte, là, du déplacement, donc, de la tache d'ombre. Là. Ouais. Et c'est marrant de voir qu'en 2028, en 2030, il y a un endroit en Australie où ils verront deux éclipses totales à deux ans d'intervalle. Mais donc, il faut aller un peu au centre.
C'est ce qui est arrivé aux États-Unis aussi. Hein. Ouais. Celle de 2017 et celle de 2024 se croisent. Okay. Et puis, quand tu es à cet endroit-là, effectivement, tu as comme deux éclipses... en quelques années. Là.
Okay, ouais. C'est ça, il y a des vénards qui n'ont pas trop à se déplacer, ben, sauf ceux qui vont aller jusqu'en Australie pour ça, mais ceux qui habitent dans le coin, là, ben, ils vont aller un peu...
Oui, c'est en 2030 hein, que ça passe au-dessus de Sydney ou un truc dans le genre. Là, ça va être une grosse.
Ouais. Donc, voilà. Ouais. Chanceux, mais ouais, c'est... Ben, pour ceux qui nous écoutent, qui sont en Europe, pas trop longtemps à attendre. Là, donc, le 12 août 2026, ouais. Si vous descendez en... En Espagne, je pense, peut-être une partie du sud de la France, là, vraiment vers Biarritz, là, à la frontière, vous aurez peut-être une chance de voir ça, mais sinon, il faudra descendre dans le nord de l'Espagne.
Oui, je vous conseille de rechercher la totalité. C'est vraiment la différence entre, disons, votre équipe de Ligue de Garage et puis les Canadiens de Montréal. Là,
c'est exactement ça. Alors, j'ai des amis, moi, qui étaient à Toronto. Ils sont restés à Toronto. Malheureusement, il y en a qui travaillaient ce jour-là. Et bah, ils n'ont pas pu se déplacer. Puis, ils ont juste vu la... C'est quoi? C'est 99,5% là, de l'éclipse. Mais il faut vraiment le 100% pour avoir cet effet-là de... Oui. De totalité, de nuit qui tombe, de température qui chute. Et puis,
parce que même à 99%, il y a quelque chose comme 10 000 fois plus de lumière que ouais, à la totalité. Là.
Fait
que
c'est... Exactement. Donc, il fait un peu plus sombre et on voit... Il voyait de Toronto, donc l'autre côté du lac Ontario, il voyait que les États-Unis étaient dans le sombre. Là.
C'est ça.
Mais voilà, c'est tout ce qu'ils ont vu. Alors, c'était un peu dommage. J'aurais dit, bah, vous avez loupé quelque chose. Ça aurait valu le coup de prendre la journée ou la demi-journée pour aller voir ça. Ouais. Mais voilà, bon, si on voyage un petit peu, il faudra peut-être aller, je sais pas moi, en Amérique du Sud. Non, ce sera pas total. Ouais, là, je pense que c'est un peu râpé pour l'Amérique du Nord pendant pas mal d'années.
Ouais, c'est ça.
Pendant une décennie ou quelque chose. Mais ici, voilà, si on voyage un peu en Europe, en Afrique, en Australie.
Je sais qu'on a des auditeurs en Europe, je sais qu'on a des auditeurs en Afrique. Alors, pour eux, ça s'en vient.
C'est ça, voilà. Donc, bah, merci de partager ça. C'était intéressant. C'était vraiment une belle expérience. Et encore une fois, on recommande ça. Si vous avez l'option de le faire, n'hésitez pas. C'est un spectacle... hors du commun. C'est vraiment un spectacle que la nature vous donne et vous avez du mal à y croire tellement c'est... Ouais, c'est impressionnant. Moi, je m'attendais à rien, puis je suis ressorti de là complètement en bouche bée, quoi. J'en revenais pas. C'était impressionnant. Bon, en parlant d'événements, il y en a un autre qui se prépare le 10 juin. Donc, ça sera un peu partout dans le monde. Pas la peine de voyager, vous n'êtes pas obligés. Certains qui ont un peu de chance vont peut-être voir les choses en personne. Et on parle donc de la WWDC. On est un petit peu en retard là sur nos enregistrements. C'est pour ça que c'est plus une nouvelle très fraîche. Mais bon, on voulait quand même en parler. Donc,
on ça est un petit peu en retard parce qu'on a passé du temps à aller voir l'éclipse.
C'est ça. C'est annoncé. Ça commencera le 10 juin. Il y aura un événement en ligne le 10 juin. Et je pense qu'il y aura un public comme les...
Oui.
C'est combien d'années maintenant? Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils font ça?
Ça, c'est la troisième année. Je me suis inscrit à la loterie, mais je n'ai pas gagné.
Je
n'irai pas en Californie pour la troisième année consécutive. Quatrième année consécutive, parce qu'en 2020, il n'y avait rien, aucun événement possible.
Mais il n'y a rien à côté, il n'y a pas de conférence alternative où tu pourras aller.
C'est nouveau de cette année. Il y a une conférence qui s'appelle One More Thing, qui vient d'annoncer qu'elle va exister à Cupertino pour la semaine. Il y a moyen de... Mais c'est un peu comme l'ancienne conférence qu'on appelait AltConf, là. Je sais pas si c'est la même personne, je le pense pas, mais l'esprit est un peu le même parce qu'on peut acheter des billets qui nous offrent un accès garanti, mais on peut aussi avoir des billets qui sont à coût modique ou même gratuits si on fait juste se présenter. Donc, AltConf, c'était beaucoup cet esprit-là aussi. Donc, il y a ça. Et ça va durer toute la semaine. Alors, pour des gens qui vont... qui ont gagné le billet ou qui n'ont pas gagné le billet et qui vont y aller pareil, j'ai failli le faire. Écoute, j'avais pris une chambre d'hôtel, mais finalement je l'ai annulé parce que c'était pas une dépense dont j'avais vraiment besoin à ce stade-ci. Si j'avais gagné le billet, je serais allé là, mais là ça valait un peu moins la peine. Je suis déjà allé en Californie, je sais qu'est-ce que c'est, je vais survivre, mais je dois dire que j'y suis allé pour la dernière fois en 2019 et je m'ennuie un peu. Là. J'aimerais ça y retourner.
Est-ce que l'hôtel coûtait horriblement cher ou plus maintenant?
C'était pas trop mal. C'était 250$ pour une nuit en canadien. Mais ça, c'était une chambre. J'avais pris une chambre avec 2 lit queen.
Okay.
Je me disais comme ça, s'il y avait un manque, je pouvais offrir un autre lit à une de mes connaissances.
OK, c'est toujours bon, ça.
Non, ça revenait pas trop... C'était pas trop mal. Mais oublie pas, il y a quand même 1 000 à 2 000 personnes qui vont y aller. Alors que la WWDC, avant, c'était plus 5 à 6 000 personnes. Donc, il va y avoir facilement le tiers des personnes. Donc, les demandes sont un petit peu moindres à ce niveau-là.
Ouais, ouais. Mais bon, c'est à Cupertino aussi qui n'est pas... Je ne veux pas dire que c'est petit, Cupertino, mais il n'y a peut-être pas autant d'hôtels qu'à San Francisco, même en
Il y en avait pas mal. C'est comparable à San Jose.
OK.
Oui.
OK, donc voilà, ça sera donc du 10 au 14. Il y aura cet événement, bien sûr, préenregistré le 10. Les peut-être 1000 ou 2000 personnes, entre guillemets, qui ont une chance d'y aller, vont voir la même vidéo que nous, mais...
Oui.
Assis dans la cafétéria de Cupertino ou alors
je pense que c'est même c'est dans Apple Park, mais c'est au centre.
C'est au centre cette fois-ci. Ok. Je pense que la première année c'était dans la cafe, plus ou moins entre la cafette.
Je pense que la cafe, c'est là où ils servent à manger avant, mais tu sors dehors pour l'événement. Il y avait des gens qui ont eu des coups de soleil et tout ça. La deuxième année, ils ont donné la crème solaire.
Ouais, mais j'avais l'impression que c'était vraiment au bord là. C'était juste devant. Je sais pas.
Il y a peut-être plusieurs zones où on s'installe.
Ouais.
Faudrait qu'on y aille. Hein. Si on gagne un billet, ça serait bien.
Ouais, j'aurais dû essayer faire des petites vacances, mais non, j'ai pas pris de ticket. C'est pas toujours facile de justifier ses dépenses, comme tu le dis. Peut-être que certains d'entre vous ont gagné, puis si c'est le cas, vous nous ferez part de votre expérience. Ça serait sympa de nous raconter ce qui s'est passé, ce que vous avez vu. Mais comme je le disais au début, ça serait peut-être bien s'il y avait une conférence alternative ou quelque chose en dehors, parce qu'une fois, j'imagine, le 10 passé, il n'y a plus grand-chose, à moins qu'Apple organise des trucs par la suite.
Non, il n'y a pas grand-chose, effectivement.
Il y a peut-être une visite du centre de développement, là, ou de développeurs.
Je pense que c'est arrivé le dimanche, ça.
Ouais, peut-être. Hein. Quand on s'inscrit, tu veux dire.
Ouais.
Peut-être les gens qui arrivent le dimanche, c'est possible. Ouais. Donc voilà, on va regarder ça de près. Apple a l'air de nous téléphoner, on va dire. Ça, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais l'information que ça sera peut-être pas mal orienté intelligence artificielle, des rumeurs, où je pense que Tim Cook l'a un petit peu dit aussi lui-même, donc il annonce la couleur. Donc voilà, on s'attend à d'annonces.
On sait que ça ne sera pas la voiture, alors.
Non, voilà, ça ne sera pas la voiture, ça, voilà. On l'a attendu presque aussi longtemps que le Mac Pro, la voiture, mais voilà. Le Mac Pro, lui, au moins, est arrivé, la voiture. Je pense qu'elle n'arrivera pas. Mais peut-être qu'il y aura du nouveau sur CarPlay, parce que j'imagine qu'ils ont fait beaucoup de choses sur CarPlay. Ils nous avaient montré une petite démo l'année dernière, déjà. Il y a même 2 ans, je ne sais plus trop. Je crois que c'était il y a même 2 ans. On avait vu cette démo de CarPlay où c'était pas juste le côté divertissement carte GPS, mais c'était aussi carrément les instruments de bord avec la vitesse, et etc., qui étaient gérés par CarPlay. Donc, j'imagine qu'au moins du projet Titan, là, le fameux projet de la voiture, ils vont au moins sauver la partie informatique, instruments de bord, etc., et que ça soit mis en place sur une marque quelconque. Alors, je ne sais pas avec qui Apple se mettrait d'accord. Malheureusement, j'ai peur que ce soit
démos,
des...
c'était plus des... marque de luxe. Des trucs haut de gamme, là, style Porsche ou Aston Martin ou quelque chose comme ça.
Voilà, donc ça sera peut-être ça. Mais bon, qui sait, peut-être qu'ils vont annoncer quelque chose. Et puis, voilà, CarPlay dans votre voiture, mais qui affiche aussi votre vitesse, qui affiche tout un tas d'informations devant le conducteur, ça serait pas mal. Donc ça, on espère qu'il y aura aussi un peu d'annonces. Mais je pense que ça sera surtout intelligence artificielle, peut-être Siri turbochargé qui fonctionnera mieux peut-être avec plus d'intelligence artificielle et puis de modèles d'apprentissage, etc. Donc voilà, qui soit capable de répondre à vos besoins et à vos questions un peu plus intelligemment, parce que c'est sûr que le modèle traditionnel non intelligent, basé sur l'intelligence artificielle et puis l'apprentissage profond, ça avait atteint ses limites. Hein. Je pense que là, on était arrivé un petit peu au bout, c'était un peu essoufflé, ça n'avait pas vraiment évolué depuis plusieurs années. Donc, espérons voilà, qu'Apple a enfin peut-être passé le cap et puis, je ne veux pas dire rattraper son retard, parce que Apple, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent, j'imagine. Ils vont peut-être faire leur truc à eux. Ça sera probablement tout fait sur l'appareil, peut-être ne nécessitant pas de connexion Internet, par exemple. C'est un peu ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Donc, à voir. Est-ce que, voilà, il y aura peut-être des nouvelles machines qui vont supporter tout ça? On verra bien. Je veux pas trop sur la comète là, mais on va voir des choses.
J'ai hâte de voir ce qu'il va avoir à la WWDC comme chaque année, bien sûr, parce que c'est notre Noël à nous pour les développeurs. Mais je peux pas dire que je suis d'un grand enthousiaste face à l'intelligence artificielle. Ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Mastodon savent que c'est pas mon sujet préféré pour toutes sortes de raisons. Je trouve qu'on galvaude beaucoup le terme intelligence artificielle, ça me m'horripile au plus haut point, parce que c'est juste un espèce de perroquet hyper avec beaucoup beaucoup de mémoire, ce truc-là. Il y a pas rien d'intelligent là-dedans. Ça ressemble à de l'intelligence, mais c'est l'intelligence pour les nuls. C'est les gens qui pensent que c'est. Puis ce que j'aime pas du tout de ce système-là, c'est que ça donne une impression que c'est très très connaissances, que les connaissances sont très avancées, alors que ça peut affirmer des trucs avec beaucoup, beaucoup de... comment je pourrais dire ça? Ça va affirmer avec beaucoup de confiance quelque chose qui est totalement faux.
Ouais.
Ça, c'est ce qui... Je sais que c'est un problème extrêmement difficile à résoudre, mais je pense que la technologie actuelle qui est utilisée pour l'apprentissage profond et pour ce qu'on appelle l'intelligence artificielle est un cul-de-sac, et on pourra pas résoudre ce problème-là extrêmement complexe d'avoir des disons une interface langagière à un système complexe. On s'en va dans un cul-de-sac évolutif là. C'est pas la bonne solution. Il va falloir faire quelque chose de complètement différent que ces techniques qui demandent des téraoctets de données pour monter des modèles qui deviennent complètement d'abord qui consomment énormément d'énergie et qui deviennent totalement impossibles à déboguer et à gérer quand les problèmes se passent. Hein. C'est pas pour rien qu'ils parlent d'intelligence artificielle qui devient folle. C'est quelque chose qui arrive vraiment avec les modèles actuels, que les trucs se deviennent... comment ils appellent ça? Des hallucinations. Ils ont des hallucinations assez rapidement. Alors, il faut... de rendre ces trucs-là un peu... de les anthropomorphiser, c'est pas nécessairement la chose qu'on doit faire. En fait, on doit pas les anthropomorphiser, ils détestent ça.
Non, bah c'est sûr que des chercheurs et des gens brillants ont fait une belle démonstration qui est bluffante sur le début. Donc, quelques questions relativement simples, ça répond et c'est la bonne chose. Mais tout de suite, le département marketing a sauté dessus dans pas mal d'entreprises et puis essaye de vous vendre ça comme si ça allait révolutionner la société entière. Moi, je n'y crois pas non plus, là.
Mais ça, c'est parce qu'on est pas deux vieux...
Ouais, c'est ça.
Deux vieux pas branchés. Mais je trouve ça dommage que dans un sens, ça détruit un peu l'environnement aussi parce que ça demande tellement d'énergie pour faire ce genre de trucs-là. Là. Puis, c'est pas la même chose que de stocker vos photos. Là. Quand vous stockez des photos puis que vous avez, 10 gigaoctets de photos sur iPhoto et que c'est stocké en quelque part, ça prend pas beaucoup d'énergie. Ce qui prend beaucoup d'énergie, c'est tous les calculs qui ont besoin d'être faits pour faire de l'analyse de vos photos pour pouvoir identifier qu'est-ce qui est un chien, qu'est-ce qui est une fleur, c'est ça qui prend énormément d'énergie. Alors, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Le jeu, disons, énergétique et climatique et, disons, avenir de l'humanité en vaut vraiment la chandelle. Je ne peux pas être contre le progrès, c'est clair, mais je n'ai pas l'impression que c'est un progrès. L'autre analogie que je pourrais utiliser, c'est si vous regardez, par exemple, une tortue. Et là, c'est le biologiste en moi qui ressort, là, mais une tortue, c'est un cul-de-sac évolutif, dans le sens de les tortues d'aujourd'hui, elles vont évoluer, et plus tard, il va y avoir d'autres tortues qui vont continuer de ressembler à des tortues, mais il n'y aura pas une tortue qui va un jour ressembler à autre chose qu'une tortue, parce qu'il y a toutes sortes de décisions évolutives qui ont été prises dans la façon dont la tortue a évolué au cours des années. Par exemple, l'humérus de la tortue, le bras de... l'os de l'avant-bras, le premier os, celui qui connecte le corps avec le coude, l'humérus de la tortue, il y a un coude dedans. Alors, il y a une courbe à l'intérieur parce qu'il faut qu'il sorte de la carapace puis il faut qu'il courbe par-dessus la carapace. Mais un humérus, une fois qu'il est tordu comme ça et de façon évolutive, il ne peut pas se détordre. Il ne redeviendra pas droit. La tortue va toujours être plus lente et toujours être plus... elle pourra pas se sortir de ce cul-de-sac évolutif-là. Et puis, c'est exactement le même sentiment que j'ai avec l'intelligence artificielle et les modèles qu'on a aujourd'hui. Alors, peut-être qu'un jour, on va avoir une intelligence artificielle comme on voit dans Star Trek ou des choses comme ça qui sont basées sur des réseaux quantiques ou des réseaux neuronaux complètement différents, une technologie complètement différente. Ça peut arriver très bien. Mais c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, malheureusement. C'est ça qui m'inquiète.
Ouais. Ouais.
Bon, j'ai assez disserté sur l'intelligence artificielle.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est sûr qu'on va voir toutes les mauvaises utilisations de l'intelligence artificielle avant de voir les bonnes, malheureusement. Donc, ouais. Prépare-toi à la crypto-monnaie qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle. Donc ouais. Là, c'est ajouter l'injure, comment on appelle ça
à l'insulte,
enfin, bref,
oui.
À l'insulte, voilà. C'est un peu comme ça. Mais préparez-vous quand même, le 10 juin, vous compterez le nombre de fois où Tim Cook va dire intelligence artificielle. Ouais, ou alors, ils vont peut-être trouver leur façon de dire. Apple aime bien utiliser des fois une expression légèrement différente pour pas dire comme les autres.
Comme je l'avais déjà dit, je pense qu'ils vont appeler ça Apple Intelligence et non pas Artificial Intelligence.
Ouais, ouais.
Et ça va être encore AI.
Ça va être smart quelque chose, ouais, ou fait Apple smart, ou enfin bref, voilà. Ça, préparez-vous, vous allez avoir votre dose. Donc ça, c'est fini de râler un petit peu. Maintenant, on va passer à des frameworks. Donc un framework mais que je trouve vraiment sympa. Lui, il te rend de bonne humeur, je pense. Ce framework, ça s'appelle Emoji Kit. Donc voilà, comme son nom l'indique. C'est un framework qui vous permet de gérer des emojis dans vos propres applications. Je regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Là, il y a une démonstration qui vous permet d'afficher les emojis par catégorie ou faire des recherches textuelles, etc. Donc, ça ressemble beaucoup à la petite fenêtre d'emojis que vous avez dans macOS ou dans iOS, hein, que vous utilisez probablement tous les jours. Mais si vous, si vous voulez l'intégrer dans votre application, ben voilà, tout est là. Donc, je ne sais pas si Philippe, tu as eu la chance d'un peu regarder comment ça fonctionne.
Non, je n'ai pas pu regarder. C'est sûr que ça remplace une fonctionnalité du système. Ouais. Mais c'est, je trouvais que celui-là il était quand même très bien fait et qu'il... que si jamais ça ne marchait pas pour vous, vous avez toujours la possibilité de réutiliser celui du système car l'interface est à peu près la même. Et puis en plus de ça, il s'est donné le trouble de tout faire fonctionner ça sur iOS, macOS, tvOS, watchOS et même visionOS, un peu comme celui du système. Donc ça peut valoir la peine de jeter un coup d'œil si vous avez un intérêt pour présenter un gestionnaire ou un sélecteur d'emoji dans votre application. Qui n'est pas celui du système, qui est peut-être un peu plus riche, un peu plus de fonctionnalités, un peu plus facile de rechercher, un petit peu plus facile de stocker vos préférés et des choses comme ça.
Et c'est tout en SwiftUI. Ouais. Donc, encore une fois, c'est en code source ouvert. Donc, on va vous dire où le trouver. Mais voilà, si vous avez en plus envie de voir comment ça fonctionne et comment ça a été développé, ben voilà, tout est là. Donc, ça fait toujours aussi des bonnes références. Ça a l'air d'être bien écrit, une bonne architecture de code, là. Donc, bon, avec pas mal d'extensions et des choses comme ça. Pas mal intéressant. Voilà. Donc, si vous voulez ajouter une petite gestion d'emoji dans votre application, jetez un coup d'œil sur ce framework ou alors... pour voir comment fonctionne le framework, comment on code un framework aussi. Voilà, c'est un bon exemple. Donc, c'est sur GitHub. Le compte, c'est Kankoda. K-A-N-K-O-D-A. Je pense que le développeur, c'est Daniel Saidi, ou Saidi, S-A-I-D-I. Désolé si je prononce mal le nom du développeur, mais je pense que c'est ça. Et Kankoda, c'est peut-être le nom d'une... compagnie ou de sa compagnie à Daniel qui développe ça, et c'est apparemment un Suédois. Donc voilà, si vous allez sur GitHub, le compte c'est K-A-N-K-O-D-A et le projet c'est Emoji Kit. Puis je vois qu'il y a un Emoji Kit Pro, alors je sais pas si c'est autre chose, je vois pas trop la différence, mais
peut-être que tu veux lui donner un peu d'argent.
Ouais, je sais pas. Ouais. Je vois qu'il y a du Ruby là-dedans, ça m'étonne un petit peu.
Le Ruby, c'est probablement parce qu'il y a des documents Fastlane pour
la distribution. Ah, c'est ça. Donc je vois qu'il y a du Fastlane, ça expliquerait tout. Alors je sais pas trop, on n'a pas regardé. Là, nous, on connaît Emoji Kit, Emoji Kit Pro, je sais pas. Ça dit pas quelle serait la différence. Donc bon, jetez un coup d'œil si ça vous intéresse. Si vous voulez en savoir plus. Un petit site qu'on aime bien, on vous en présente de temps en temps. C'est sites de référence qui vous permettent de retrouver certaines fonctionnalités, surtout les syntaxes bien particulières à utiliser dans certains cas, et puis on ne se souvient jamais ce qu'il faut faire exactement. Et Philippe, tu nous as dégoté un petit site qui vous permet de connaître de vous rappeler des syntaxes pour utiliser Swift Package Manager.
Oui,
c'est bien ça.
Oui, alors si vous êtes le moindrement moderne dans votre environnement de développement, vous n'utilisez plus les sous-modules de Git, vous n'utilisez plus CocoaPods, vous utilisez le gestionnaire de paquets de Swift, le Swift Package Manager, pour intégrer vos dépendances, que ce soit un projet, un framework sur GitHub qu'on a intégré, ou que ce soit vos propres dépendances à l'intérieur, parce que généralement, pas généralement, mais une nouvelle façon de développer vos logiciels, c'est de créer vos propres dépendances, dans le sens où vous faites vos propres petits frameworks, et qui sont chacun leur petit paquet Swift, avec leur fichier package.swift, etc., qui décrit un peu le manifeste, hein, le contenu de votre framework. Et l'avantage de ça, c'est que ça permet d'avoir des modules indépendants qui sont, oui, réutilisables, mais on ne cherche pas tant la réutilisation que l'abstraction. Un module fait une chose et il le fait bien. C'est un peu l'idée derrière ce genre de compartiment qu'on peut créer. Pour faire ça, il faut créer donc des fichiers package.swift. Et là, tout le monde se dit, c'est un fichier Swift, donc ça va, je peux utiliser... mes connaissances du langage Swift pour pouvoir créer ce fichier-là, qui est juste un bout de code en Swift, finalement. Le problème, c'est que la syntaxe est un petit peu rébarbative. Oui, c'est du Swift. Quand on le lit, on dit « Ah oui, c'est facile à lire, je comprends. » Mais de l'écrire, c'est autre chose. Parce que la syntaxe est très précise. Et contrairement à quand on écrit du Swift en UIKit ou en AppKit ou en WatchOS, on n'a pas vraiment d'autocomplétion. Hein. Vous appuyez sur la touche Escape pour obtenir l'autocomplétion d'Xcode. Et Xcode fait juste hausser les épaules et rire de vous pour ne pas vous permettre de remplir. Mais par contre, si vous faites une erreur, il va vite vous le dire que vous avez une erreur, mais il ne vous dirait pas nécessairement quelle est cette erreur. Surtout dans les fichiers package.swift, là, comme c'est compilé tout d'un coup, il faut souvent creuser un peu pour trouver l'erreur. Tout ça pour dire que ce site, qui est le pense-bête de SPM, hein, c'est le SPM Syntax Cheat Sheet, vous donne un peu l'idée de toutes les différentes syntaxes et toutes les différentes modifications et comment on crée un fichier package.swift, comment on le modifie, comment on l'augmente, comment on enlève des choses, comment on rajoute des choses. J'ai trouvé que c'était une bonne référence pour vous aider à faire ces changements-là de façon soit chirurgicale, vous avez juste une petite chose à changer. Par exemple, vous avez un framework qui vient de GitHub et vous utilisez la version principale sur la branche main, eh bien, vous voulez avoir une version particulière, soit un numéro de version pour utiliser la version 3.2.1 ou un commit particulier dans Git avec son propre numéro de commit unique. Quelle est la syntaxe pour faire ça? Ben, c'est tout expliqué là-dedans pour pouvoir vous... oui, vous pouvez le retrouver ailleurs dans vos fichiers Swift, mais en fait c'est la façon dont je le fais. Moi généralement j'en ai plusieurs des fichiers package.swift, puis je regarde comment j'ai fait ça. Ah oui, j'ai déjà un package.swift qui fait ça, je vais aller regarder, puis je me retrouve à copier-coller la syntaxe. Mais ça c'est la même chose, mais en formalisant la documentation à un endroit central, ce qui est beaucoup mieux. Donc si vous utilisez le moindrement les packages Swift, c'est une bonne référence.
Ouais, donc si vous allez sur le site swifttoolkit.dev, vous trouverez ça, et je pense que c'est peut-être un site à mettre dans vos références, hein, dans vos bookmarks Safari par exemple. Il n'y a pas uniquement la syntaxe pour Swift Package Manager, mais je commence à voir d'autres choses aussi. Donc le site est assez récent, il a été créé en janvier de cette année par Nathan, je ne sais pas si j'ai le nom de famille du développeur, Nathan quelque chose, on va peut-être trouver ça. Mais il y a aussi, si vous voulez faire des applications en ligne de commande avec Swift, voilà, il y a toute une page qui vous donne les différentes syntaxes, les façons d'écrire ça. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc ça, c'est bien ce genre de site blog un peu, où on voit pas mal d'informations. Et comme tu dis, si vous allez sur swifttoolkit.dev/posts, donc post et /SPM, trait d'union, cheat, cheat, voilà, vous trouverez toute l'information dont tu parlais à l'instant. Donc pas
et
mal.
Même plus.
Et même plus, comme je disais. On va finir une émission un petit peu plus courte, on va dire, aujourd'hui, mais c'est pas grave, on aura plus de choses à dire la prochaine fois. Un petit utilitaire que tu nous as dégoté, Philippe, alors qui à l'origine est de 2018,
oui,
donc assez ancien, mais apparemment tu as remarqué qu'il avait été mis à jour il y a quelques jours, là, une version 3.
Ouais.
Donc ça s'appelle VPN Status.
Oui.
J'imagine que c'est un rapport avec les VPN,
ouais.
Mais j'imagine quoi, que ça offre des fonctionnalités que macOS n'offre pas peut-être.
Mais c'est ça, c'est que c'est un projet qui, comme tu dis, on l'avait dans le backlog depuis 2018, et puis là j'ai vu que c'était à la version 3, donc j'en profite. Mais ce que ça fait, c'est que ça vous présente ça remplace l'icône dans la barre des menus de votre VPN. Si vous utilisez le VPN de macOS pour vous connecter à un service, peut-être pour votre travail, peut-être personnel, mais généralement c'est pour le travail, vous avez remarqué que dans l'application Préférences Système, qui s'appelle maintenant Réglages Système, dans la section VPN, on peut cliquer pour avoir une icône dans la barre des menus. C'est bien, ça vous permet de voir les différents VPN, vous connecter, mais... celui-là, il fait la même chose et il existe comme dans le dans la barre des menus et comme une application séparée aussi. Mais bien sûr, voir vos différents menus, mais aussi des choses comme, par exemple, si vous démarrez une certaine application, par exemple, votre application de VNC, ben, le VPN peut démarrer automatiquement. Et puis, quand vous quittez l'application, le VPN s'arrête. Ça, c'est un truc qui est pratique. On n'a pas besoin d'avoir le VPN qui roule tout le temps. C'est ça qui est amusant avec, d'avoir une application séparée. Mais c'est fondamentalement, c'est pas une application de VPN. C'est une application pour contrôler le VPN du Mac. Donc, c'est juste un enrobage par-dessus la fonctionnalité système qui est mieux que celui qui existe dans le système. Et comme vous avez le code source, vous pouvez le compiler vous-même. Vous pouvez aller dans les distributions et télécharger la distribution et l'essayer par vous-même. Voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous l'utilisez pas. Vous utilisez la fonctionnalité système.
Ouais, donc j'essaie de voir le nom du développeur T-Mac.
C'est Alexandre Colucci.
Colucci, donc voilà. Le développeur, c'est Alexandre Colucci. Et donc, il maintient l'application. Je vois même que Kessilis du podcast ATP
a participé. Ouais, c'est ça.
A participé, il a envoyé un petit pull request. Là. Donc, ça a l'air d'être utile, comme tu le dis, pour certains. Là. Disons que si vous êtes la personne qui se connecte à plusieurs VPN, j'imagine c'est plutôt l'intérêt, hein, c'est quand on a plusieurs VPN, quand on en a un seul, c'est bon, on démarre, on arrête, point la ligne, mais quand on doit, on est consultant, on a plusieurs clients, et puis ça demande de se connecter à plusieurs VPN, donc c'est là où ça devient intéressant d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se passe.
Ou imaginez, vous vous branchez sur un certain réseau, par exemple, vous arrivez chez votre employeur, le VPN se connecte, de cet employeur se connecte là, votre premier contrat, vous allez le lendemain pour un autre contrat dans un autre bureau, c'est un autre réseau, et bien là, le deuxième VPN s'embarque tout seul, c'est des choses que vous n'avez pas besoin de faire manuellement, c'est toujours bien.
C'est ça. Si vous allez sur le compte GitHub T-Mac, donc d'Alexandre Colucci, T-I-M-A-C, vous trouverez le projet VPN Status qui vous donne tout le code. Je pense que c'est pas mal de l'objectif C, par contre.
Ça traduit son âge.
Ouais, c'est ça. Donc, vous ne trouverez pas beaucoup de Swift là-dedans, à moins que vous
ayez... Dans un prochain épisode, je vous parlerai de Swift Rewriter, qui est un projet qui permet de convertir vos classes Objective-C en Swift. Mais j'essaie d'avoir un petit peu d'expérience avec avant de vous en parler.
Excellent.
Pas si souvent, là, mais c'est un teaser pour le prochain épisode.
ouais. Donc, on parlera de ça. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Puis voilà, vous pouvez vous préparer à le réécrire en Swift éventuellement. J'imagine que ça sera bien accueilli par le développeur si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. C'est peut-être pas vraiment la peine. Enfin bref. Et on dirait qu'il travaille pour Elgato. Je suis pas sûr, mais je vois Elgato Stream Deck. Je sais pas si c'est un développeur officiel de la compagnie ou s'il travaille sur la plateforme Team Deck. Je ne sais pas s'il est francophone, Alexandre, mais si jamais il nous écoute, on le salue bien bas. On a fait le tour aujourd'hui un petit peu des nouvelles. C'est une semaine un petit peu calme, là, donc ça arrive. Comme je disais, on aura certainement plus de choses à aborder la prochaine fois. Le WWDC s'approchant, on va commencer à avoir un peu plus de rumeurs, un petit peu de choses qui bougent là. On en parlera aussi. Philippe, si on veut savoir ce que tu feras au mois de juin, où doit-on aller par exemple?
Avant le mois de juin, je vais aller en vacances, alors ça va faire beaucoup de bien. Peut-être qu'on fera notre prochain épisode pré-WWDC avec nos prédictions. D'ici là, ça serait sur mastodon.social, Philippe C.
Oui, et pour le podcast, vous allez sur mastodon.world et c'est CacaoCast. Un truc que j'ai oublié, c'est que On espère que l'Apple Vision Pro sera annoncé à l'international d'ici la WWDC ou à la WWDC. J'imagine qu'au plus tard, à la WWDC, qui
les
commence à dire...
Les rumeurs disent qu'il va y avoir plusieurs pays qui vont être disponibles avant la WWDC, dont le Canada potentiellement, voilà. Et des pays d'Europe aussi.
Alors, c'est pas que je sois sur le marché, vraiment, parce que je pense qu'on en a déjà parlé, c'est un bel appareil, c'est plus pour moi une preuve de concept qu'autre chose pour l'instant. Il faut attendre la version 2 qui va être plus abordable, peut-être plus pratique, un peu moins lourde, un peu moins fragile, etc. Donc, si c'est 3 500 $ américains, j'ose pas imaginer le prix que ça sera au Canada. Ouais. On peut le calculer, j'imagine, mais ça sera bien cher pour un appareil de réalité augmentée / virtuelle. Moi, ce que j'ai l'impression, juste pour terminer, là, c'est que l'arrivée de l'Apple Vision Pro a probablement boosté les ventes du Meta Quest 3. Donc, c'est l'appareil de Facebook / Meta.
Qui est assez haut de gamme, je pense.
Qui est pas mal. C'est plus plastique et tout ça. C'est pas aussi beau qu'un Vision Pro. C'est peut-être pas aussi perfectionné qu'un Vision Pro, mais ça fait 90% de ce que fait un Apple Vision Pro pour... Je crois que...
Pour le commun des mortels, ça va être...
$500. Je crois que c'est $500, voilà. Donc, ça coûte 7 fois moins cher qu'un Apple Vision Pro, puis ça fait 80%, 90% des mêmes choses. Donc, voilà, il y a pas mal de gens qui se sont dit, en attendant mieux, je peux me prendre un Meta. Alors,
mais quand c'est sûr, tu es obligé d'avoir un compte Facebook, alors peut-être.
C'est ça. Là, tu es prêt à vendre tes données, là. Puis maintenant, Meta va voir ce que tu vois et peut voir filmer ta maison, etc. Donc, ça, c'est sûr.
Je pense pas que ce soit à ce point-là, mais oui, c'est un peu.
Ça doit pas être loin. Hein. À mon avis, quand ça détecte un petit peu ce que tu as dans ta maison, ils doivent le stocker quelque part. Ils savent quelle marque de téléviseur tu as ou ce genre de truc-là. Je serais pas étonné du tout. Donc voilà, préparez-vous si vous allez dans cette direction-là, avoir des publicités.
Tu commences à recevoir des annonces de garantie prolongée pour les différents produits que tu as dans ta maison, tu vas dire oui,
c'est. C'est ça, c'est ça. Donc, si vous voulez l'expérience, je pense que c'est une façon de l'avoir pour beaucoup moins cher. Donc, on en reparlera aussi. Apple Vision Pro, est-ce qu'il y aura déjà des annonces à la WWDC d'évolution? Nouveau modèle, je pense que ça serait un peu tôt, mais qui sait? Qui sait? Peut-être qu'ils vont commencer à faire saliver un peu tout le monde en disant la version R va sortir, elle coûtera moins cher, je sais pas. On verra bien. J'ai oublié de dire que si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Donc voilà, si vous allez à la WWDC en personne, vous pourrez nous en faire part en nous envoyant un petit courriel, n'hésitez pas, comme je disais, sur mastodon.world aussi. Et puis, sur le blog cacaocast.com, vous avez la liste de tous les épisodes depuis le numéro 1. Donc si vous avez envie de vous amuser puis à nous écouter parler d'une prédiction de la WWDC en 2010, vous trouverez des choses là-dessus. Ça doit être assez intéressant. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe.
Et moi aussi.
On se reparle une prochaine fois.
Salut. Bye bye.